C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde! Hey, cette semaine, vous avez les deux animateurs en studio. Parce que là, il y a deux semaines, c'est moi qui n'étais pas là. La semaine passée, c'est Alain qui était parti en Autriche. Cette semaine, tout le monde est là. Ouais. Et on a une émission fort intéressante parce qu'on va parler, entre autres, de deux sujets que moi, j'aime bien. Puis j'ai beaucoup de questions pour l'invité qu'on va avoir aujourd'hui parce que c'est un sujet, vous allez voir, qui va prendre de plus en plus de place dans l'actualité.
C'est un angle intéressant aussi sur ce
sujet-là. Oui, exactement. En fait, notre invité va être Patrick Derry, qui est surintendant de l'encadrement de la solvabilité à l'Autorité des marchés financiers. Ça fait sérieux, ça, monsieur.
Là, on monte de l'écran, exactement.
Là, l'émission vient de monter.
On va le vous voyez, d'accord?
Voilà. On va le vous voyez. D'ailleurs, on le connaît pas. Il a l'air très sympathique. Lui va nous parler, en fait, de véhicules automatisés. Et bon, les véhicules autonomes, comme on les connaît, mais sous l'angle des impacts que ça va avoir sur les assurances et les données personnelles des Québécois.
Exact.
Ça, on n'y pense pas toujours, mais c'est un sujet qui risque d'être fort intéressant, surtout du niveau des assurances. On va avoir, en essai routier, tu nous présentes quoi, toi, cette semaine?
J'ai l'édition 2022 de l'Acura MDX, qui est le changement dans la continuité. Si j'étais politicien, ce serait mon slogan, puis c'est exactement ce qu'il est.
Et c'est beaucoup la politique de Honda et d'Acura en général.
Absolument.
Moi, j'appelle ça l'évolution des petits pas. Ouais. Chez Honda, la révolution est assez rare. Je pense que la dernière fois, c'était le NSX. Où tout le monde avait dit « Ah! Honda, Honda va sortir ça! »
Ben oui,
mais effectivement, ça reste un excellent véhicule, tu vas nous en parler. Moi, j'ai mettons que je suis un petit peu à l'autre bout du spectre.
T'es niché, hein, n'est-ce pas?
Oh, je suis très niché. Oui. Moi, je suis en Jaguar F-Pace SVR. Ça, c'est le... Moi, j'appelle ça le vieux moteur V8 grognon là, qui crache beaucoup, beaucoup de HP. Mm-hmm. 550, pour être précis, ça se démène sérieusement. Mais préparez vos chèques pour mettre de l'essence.
Ça coûte de réparation
cher.
À l'horizon aussi, non?
Bon, et tout, et tout. Mais cela dit, quelqu'un qui ne veut pas délaisser le côté sportif et qui a du monde à mettre en arrière, c'est une bonne solution.
Ah.
Alors, on va parler de ça. Et, tiens, je vais te laisser commencer avec tes actualités. La première, on en a entendu parler cette semaine, je vais te seconder là-dedans.
Ben, elle continue, en fait, à faire jaser.
Ouais, ben,
et d'une façon étonnante. Plutôt cette semaine, Hertz, la compagnie de location de voitures américaines, a annoncé qu'ils allaient acheter des voitures électriques chez Tesla. Et évidemment, cette nouvelle-là était, bon, probablement bonne pour Hertz, mais quand même assez... c'est un petit défi, à mon avis, pour eux, là, d'atteindre les cibles qui sont fixées. Mais c'est quand même une nouvelle qui a profité à Tesla, là, on se comprend.
Ben, écoute, 4,2 milliards en achats de véhicules, ça fait... Écoute, ça l'a transporter Tesla au niveau du trillion de dollars.
Oui, ben, du billion en français, exactement.
Ouais, c'est ça.
Les 1000 milliards de dollars américains. Donc, Tesla est contente, l'entreprise d'abord et ses actionnaires ensuite, et peut-être un paquet de spéculateurs aussi qui ont des actions de Tesla.
Oui.
Écoute, en une semaine, Tesla a vu sa valeur en bourse grimper de 18%, déjà que Tesla vaut beaucoup. Alors, ça lui a permis d'atteindre un petit peu plus que, et même malgré là, les fluctuations des derniers jours, un petit peu plus que 1000 milliards de dollars US. Et justement, comme tu le disais, en anglais, on dit « trillion ». Le mot en français, c'est billion.
Billion.
On l'utilise pas souvent, à tel point que moi, au quotidien, quand je suis au journal, au devoir, mes réviseurs me biffent ce mot-là. Ils veulent pas qu'on l'utilise, mais il faut parler de billion en français. On est rendu
d'accord.
Là.
D'accord. Alors.
Cela dit, c'est peu fréquent. Après Tesla, il y a 4 autres entreprises qui valent 1000 milliards en bourse et ce sont toutes des technos.
Exact.
Et quand on fait le bilan.
Chose intéressante.
Oui.
Parce que ce matin, Hertz a annoncé qu'ils allaient prêter ou louer 50 des 100 000 véhicules à Uber.
Ah, ben voilà,
donc,
en plus, tu vois.
Uber, les chauffeurs Uber vont maintenant passer par Hertz. Le programme commence à San Diego, à San Francisco et à Washington, dans ces trois villes-là. Va s'étendre à la grandeur des États-Unis. On dit que ça va coûter 334 $ par semaine au début pour les chauffeurs qui vont louer,
Le véhicule.
Le modèle 3 probablement. Là, on n'a pas précisé, mais ça doit être une 3 ou une Y parce que c'est les plus populaires, ceux qu'on fait en plus grand nombre et les plus abordables là, dans cet ordre-là. Et on dit qu'à terme, quand il va y avoir plus de véhicules sur la route, ça va être à 299 $ par semaine.
Ouais.
Et on veut amener, arriver aux 50 000 véhicules loués d'ici la fin 2023. Donc, le programme commence le 1er novembre. Là,
c'est un beau revirement parce que Hertz, on le sait, hein, ils ont fait faillite il y a un petit peu plus qu'un an. Et bon, finalement, clairement, ça en est sorti. a restructuré ses activités. Il a même profité d'un élan de sympathie, puis c'est drôle parce que ça rejoint Tesla là-dessus. C'est plusieurs investisseurs spéculateurs qui s'échangeaient des petits conseils financiers sur les réseaux sociaux et sur le forum en ligne Reddit. On créait ce qu'on appelle la meme stock economy, c'est-à-dire l'économie basée sur les memes. Les memes, c'est des espèces de petits gifs animés qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi une façon de caricaturer cette espèce d'échange d'informations financières. Combien des gens qui sont des investisseurs autonomes sur les réseaux. Donc, Hertz était, à un moment donné, comparé à BlackBerry et GameStop dans ce phénomène-là, des entreprises qui ont disait, ils valent rien, mais les gens, c'est quasiment par sympathie qu'ils investissent. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec cette annonce-là, Hertz a peut-être une stratégie à long terme intéressante pour se retourner de bord, puis avoir une certaine croissance.
Comme stratégiste, on a envoyé Mark Fields, qui était l'ancien patron chez Ford, qui est aussi, à une certaine époque, patron de Mazda.
Voilà.
Et là, maintenant, parce qu'on sait que Hertz a des liens très serrés avec Ford.
Oui.
Alors, on l'a envoyé là pour justement, probablement, remettre, parce qu'il ne faut pas oublier là, que ça fait 4 mois à peine qu'ils sont sortis de la faillite. Là. Alors,
non, exact, c'est tout nouveau.
C'est une transaction majeure pour la compagnie qui va probablement les... comme on dit en bon québécois, les remettre sur le piton.
C'est peut-être un des bons effets de cette meme stock économie, c'est-à-dire que là, avec l'argent et les capitaux qu'ils ont pu lever, ils sont en train de se revirer. Puis M. Fields, effectivement, a déjà fait des flips économiques dans le passé. Le potentiel est là.
C'est un gars qui a le talent de ça. Ouais. Alors, en tout cas, bonne chance à tout le monde. Absolument. Autre nouvelle intéressante, là, qui touche la techno, mais qui touche aussi l'automobile. Mercedes-Benz voudrait réparer des voitures avec... des hologrammes avec
peut-être pas des hologrammes.
Pas des hologrammes, mais réalité en réalité virtuelle.
Ouais, Microsoft a quelque chose qui s'appelle la réalité mixte, c'est-à-dire que c'est comme ça passe à travers des lunettes, donc des en fait c'est un casque qui a des verres transparents comme des espèces de grosses lunettes de travail qui s'appelle les HoloLens.
OK.
Ces lunettes là sont connectées à internet et à un poste informatique et quand on les porte, on voit ce qui se passe devant nous comme si on portait des lunettes normales, mais en plus, on peut afficher du contenu tiré d'internet dans l'environnement. Les HoloLens aussi sont conscients de leur environnement et permettent, par exemple, d'afficher une fenêtre de Teams, la fameuse application d'appel vidéo, sur le mur.
Donc, physiquement, on peut être avec quelqu'un d'autre.
On peut avoir quelqu'un interagir en direct et avoir son flux vidéo accroché sur le mur devant soi. Alors ça, c'est la partie HoloLens de la patente. Ce que Mercedes-Benz Canada a décidé de faire avec ça, c'est qu'ils en ont confié un exemplaire de HoloLens, donc un kit, dans le fond, de réalité mixte, par concessionnaire au Canada. Et les techniciens qui ont un problème devant eux, qui sont pas capables de réparer, donc un véhicule qui pète et qui ne savent pas pourquoi, peuvent, avec les HoloLens, appeler directement un technicien plus avancé dans un centre d'expertise plus élevé.
Système qui existe déjà depuis longtemps, mais au téléphone.
Ben, exactement.
Alors, t'appelles un spécialiste parce qu'il est, en anglais, on dit des troubleshooters, là, mais des gens qui règlent des problèmes spécifiques. Mais là, on va pouvoir agir avec ces gens-là, mais en réalité virtuelle.
Exactement. C'est-à-dire que la personne à l'autre bout a le flux vidéo des lunettes, parce que les HoloLens ont aussi des caméras. Et inversement, on voit ce que le technicien à l'autre bout nous conseille. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça évite de dire c'est quoi le numéro de la pièce, c'est de dire à l'heure de quoi la pièce, t'es où, là, qu'est-ce que tu fais,
parce que tout le monde peut être un geste physique qu'on a à faire, va mettre la main là ou attrape ici.
Et dans la démonstration, exactement, il nous faisait ça, parce qu'on voyait le technicien avec sa main aller chercher une pièce qui était cachée en dessous d'un espèce de composant électronique complexe. Puis finalement, c'était une espèce d'une résistance qui était dans la démo. Évidemment, c'était prévu d'avance, c'était rien de spectaculaire, mais l'idée, c'est de dire, écoute, dans à peu près 10% des cas, les véhicules que Mercedes-Benz, les concessionnaires Mercedes reçoivent au Canada, ce sont des cas que c'est plus compliqué que juste l'entretien et la réparation de base. Et dans à peu près 10% de ces cas-là, même un petit peu plus, ce sont des situations où il faut faire venir un technicien. Puis souvent, ces techniciens-là, avant, soit ils appelaient, soit ils se déplaçaient carrément pour venir. Mais là, il y a du temps et il y a de l'argent derrière ça.
Exact.
Et en réduisant et en éliminant la plupart de ces problèmes-là avec le HoloLens, ce que les concessionnaires Mercedes-Benz du Canada sont capables de faire, c'est de réduire le prix des réparations. Donc les clients, au bout de la ligne, vont être plus satisfaits.
Ah, c'est intéressant.
Je veux juste le dire rapidement, c'est unique à Mercedes-Benz Canada, mais ça se fait aussi dans d'autres industries. Il y a beaucoup de formations en médecine. CAE le fait de son côté. Il y a plein d'applications. Puis de plus en plus, on va le voir dans l'automobile. Donc, gardez l'œil ouvert si vous voyez ça dans des garages prochainement. Là, vous allez voir, ça va être intéressant. C'est une belle technologie puis une belle application aussi qui a des applications concrètes.
Ouf. Bon, c'est
la grosse techno.
Hey, je voulais vous revenir parce que je vous parlais la semaine dernière de notre tentative de record Guinness.
Oui.
Saint-Hyacinthe. En fait, on a un record Guinness. Attendez, j'irai pas trop vite. On a largement dépassé le nombre du record. C'est Guinness qui va homologuer le record dans les prochaines semaines.
Okay. Hein,
disons-le
c'est
comme
pas
ça.
Instantané, là.
Mais on a eu 740 participants.
Oh, wow.
Le record à battre était de 402. Alors, on était pas un peu, on était beaucoup au-dessus. Bon, moi, mon travail était de compter les voitures à l'arrivée. et de s'assurer que la séquence était la même qu'au départ. Parce que pour être homologué, les voitures doivent arriver dans le même ordre qu'ils sont partis. Donc,
ah oui.
Si j'ai une voiture qui n'est pas en séquence, on doit l'enlever, on ne la compte pas.
Mm.
Alors, il y en a 734 qui ont terminé, sauf qu'il y en a 6 qui n'étaient pas dans le bon ordre. Et il y a une voiture qui a reviré de bord en chemin.
Parce que,
parce qu'on surveillait la séquence, c'est notre collègue Antoine Joubert qui, lui, était au départ, qui écrivait dans l'ordre.
Qui n'a pas été capable de finir.
Partait.
Ah non, c'est lui, okay, il conduisait pas.
Il conduisait pas, okay. Mais il y avait une seule voiture MX-30 dans le parcours,
elle s'est pas rendue.
En fait, c'est quelqu'un qui se présente à l'arrivée, puis il m'a dit, parce que moi j'avais MX-30, puis là je regarde, puis c'est pas ça. J'ai dit, aviez-vous un MX-30? Il dit oui. Il dit, il a tourné une heure, il est parti.
Ah bon?
Il a jamais fini. Alors, il était probablement parti surcharger. Il avait pas assez de charge.
Bon, on peut rire d'un
instant. C'est un peu rare, mais
3
bon.
Kilomètres, le circuit.
3,2 kilomètres.
Il aurait pu
mais tout ça pour dire que, officiellement, on est à 733. Mais ce que j'ai retenu, on a fait une couple de statistiques sur les 740 véhicules qui se sont présentés. 282 étaient des Tesla.
Okay.
Donc, ça donne une bonne proportion.
Mm-hmm.
C'est 38% de tous les modèles. En fait, il y avait 39 modèles S, 38 modèles Y, puis la majorité, t'as des 3, puis des modèles X. La majorité, t'as des Y et des 3, beaucoup
okay.
de 3. Chevrolet Volt, Bolt,
mm-hmm.
on en avait 122. Puis il y avait 153 Chevrolet au total, parce qu'il y avait des Sparks là-dedans.
Il y avait des Sparks, oui, ça c'est bien ça.
Il y avait des petites Sparks qui étaient là. On avait aussi 87 Hyundai Kona
okay.
Électriques, 121 Hyundai au total, parce qu'il y avait des Ioniq.
Il y avait des hybrides branchables?
Non, c'était 100% électrique.
Ah, OK.
Il y avait 69 Nissan Leaf, 31 Ford Mach-E, 27 Kia Soul et 22 Niro. Alors, ça donne un peu l'idée de qui était là. Bon, deux Audi e-tron.
Ouais,
ouais. Il y avait une Taycan.
Taycan, OK.
Il y avait à peu près une dizaine de e-golf. Quatre ou cinq Ford Focus électriques.
Oh, wow!
Et deux e-mièvres. Écoute, il y a deux e-mièvres qui ont survécu.
Mon Dieu.
Alors, donc, tout ça
c'est
pour dire que le record a été battu et largement. Et on va avoir ça officiel d'ici probablement une petite semaine, là, quelque chose comme ça. Puis parce qu'on parle de la Bolt, GM a annoncé qu'on va reprendre la construction et les commandes de Bolt à partir du 1er novembre. Donc, on est en train de régler la fameuse situation. Ils ont annoncé ça aujourd'hui. Donc, l'usine de Orion, dans le Michigan, où on les fabrique, va se remettre en marche. Bon, évidemment, du côté de chez LG, qui elle aussi est au Michigan, on a repris depuis le 20 septembre, donc un mois après qu'on ait fait le rappel.
Mm-hmm.
Là, on fait surtout des piles de remplacement pour le moment, parce qu'on a 142 000 à remplacer, donc c'est un gros morceau. Sauf qu'on va aussi en fabriquer pour des nouveaux véhicules. Donc, ceux qui avaient commandé un véhicule, soyez patients, ça s'en vient, on recommence tout ça à partir du 1er novembre. Alors voilà, ça fait le tour rapidement de nos petites nouvelles. On va à la pause et on va revenir avec Patrick Derry, notre premier invité de l'Autorité des marchés financiers.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est un sujet dont ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas parlé, celui des voitures autonomes.
Ça s'approche.
Ça s'approche et en même temps, on dirait que depuis le début de la pandémie, c'est comme tombé mort. On parle beaucoup de véhicules électriques, on parle d'électrification des transports.
Mm-hmm.
Il y a une période, moi, entre 2015 et 2018, où j'ai essayé beaucoup de véhicules autonomes avec Mercedes, avec Kia, avec Lexus. On en a fait l'essai de plusieurs.
Il y a eu une navette autonome en essai par Transdev, je crois, à Montréal.
Ouais.
Il y a deux étés.
Exact.
Donc,
puis
c'était...
là, on commence. J'étais à San Francisco quand mm-hmm. j'étais du côté de la Californie. Et on commençait avec des navettes autonomes entre 22 heures le soir et 6 heures le matin dans des quartiers précis de San Francisco. Mais pour faire des petites courses, il y a des véhicules sans chauffeur qui commencent tranquillement à arriver.
Ouais.
Et on parle que ça va s'en venir au Québec. Là.
Mm-hmm.
Tranquillement, pas vite, on va voir de ces véhicules-là au Québec. Et pour parler de ça, mais surtout de l'angle des assurances, parce que qui est responsable de ces véhicules-là? Il se passe quoi parce qu'il n'y a pas de chauffeur? Mm-hmm. Et la protection des renseignements personnels, on va parler de ça avec Patrick Derry. Patrick Derry est surintendant de l'encadrement de la solvabilité à l'Autorité des marchés financiers. Monsieur Derry, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Sujet fort intéressant. J'espère qu'on a mis ça un peu en bouche pour les gens. Bon, rappelez-moi un peu comment on se prépare à recevoir des véhicules autonomes au Québec, parce que j'en ai parlé beaucoup avec beaucoup de compagnies et c'est toujours du cas par cas. C'est-à-dire que ça dépend des lois des États quand on est aux États-Unis, des lois provinciales ou des lois fédérales. Comment vous attaquez ce problème-là, par exemple, pour le Québec?
Bien, parfait. Bien, merci d'abord de nous accueillir dans votre balado.
Bien, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir.
C'est effectivement un sujet intéressant et un sujet pour lequel l'autorité veut prendre les devants.
Okay.
On ne peut pas attendre d'être un petit peu pris par surprise par des enjeux qui surviendraient à cause de la présence de ces véhicules-là sur nos routes. Mais on parle des véhicules très automatisés, ce que vous donnez comme exemple, mais n'oublions pas qu'il y a plus qu'1,5 million de véhicules sur nos routes au Québec présentement qui ont moins de 4 ans. Puis plusieurs de ces autos-là ont des mécanismes variables d'aide à la conduite.
Ah, ce qu'on appelle
de l'aide avancée, là.
Ouais, des conduites semi-autonomes, là. Le Super Cruise chez GM, l'Autopilot chez Tesla, là, et le ProPilot chez Nissan, là. Donc, tous ces systèmes-là dont disons qu'on peut laisser le volant et que la voiture va faire le travail toute seule pour, disons, un certain temps.
Exact, dans le trafic, des choses comme ça.
Ouais.
Donc, la question de qui est responsable, elle est tout à fait pertinente, même si on n'est pas encore rendu dans le monde peut-être un peu plus futuriste où les voitures vont se conduire toutes seules. C'est des questions qui sont pertinentes maintenant.
OK.
Puis pourquoi l'autorité s'intéresse à ça? Ben, nous, on a évidemment un rôle au niveau de l'encadrement des compagnies d'assurance, mais on a aussi la responsabilité de développer les produits d'assurance automobile, les polices d'assurance. Puis notre système au Québec, il marche bien. Depuis plus de 40 ans, on a un système assez unique.
Le fameux système No Fault, là, mm-hmm. qui est assez unique à ce qu'on a chez nous, là.
Oui, puis qui est un No Fault pour le volet des blessures corporelles. Ça, c'est la Société d'assurance automobile qui prend ça en charge. Mais pour les bris mécaniques, les bris au véhicule, la responsabilité civile, ça, c'est les assureurs du secteur privé qui offrent ces produits-là.
C'est vrai.
Puis, le système, il repose donc pour ce volet-là sur la responsabilité civile de la personne en chair et en os qui est propriétaire du véhicule ou qui en fait usage. Et comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, est-ce que cette personne-là est vraiment responsable si c'est un des instruments de conduite automatisée qui fait défaut?
Voilà.
Ou est-ce que c'est le fabricant ou est-ce que c'est la compagnie qui a fait le logiciel, les algorithmes qui sont utilisés?
Ça va être important de le définir parce que, veut pas, on a beau dire qu'on vise zéro accident, mais on sait tous que la perfection n'est pas de ce monde. Et qu'il y aura un incident de temps en temps qui va faire en sorte qu'il va y avoir des responsables à pointer du doigt. Il faut savoir à ce moment-là qui est vraiment le responsable.
Exactement. Donc, il existerait un flou, on s'entend rapidement là-dessus, il y a un flou présentement sur la responsabilité. Puis nous, ce qu'on veut faire avec notre consultation, c'est d'aider à enlever un peu ce flou-là, discuter avec l'ensemble des parties intéressées qui sont concernées par ces enjeux-là, puis essayer de voir au Québec, ben qu'est-ce qu'on aurait à faire comme ajustement pour favoriser, si on veut, une arrivée harmonieuse là, des véhicules qui ont des volets d'automatisation de conduite.
Bon, donnez-nous un exemple, M. Derry, un exemple concret de ce qu'on fait ou de ce qu'on discute avec les compagnies d'assurance en ce moment.
Ben écoutez, là, la consultation vise à générer cet échange-là de façon beaucoup plus, je dirais, en profondeur. Mais les premiers échanges qu'on a déjà eus, par exemple, vous savez probablement qu'au Québec, quand on a une collision, ben chaque assureur paie pour les dommages du véhicule de chaque personne.
Assuré,
donc, moi, c'est mon assureur qui paie mes dommages, même si je suis pas responsable dans l'accident. Puis ça, c'est en vertu d'une convention d'indemnisation qui regroupe les assureurs puis qui décide dans cette convention-là comment ils vont se partager les frais ultimement.
Okay.
Donc, ça, ben, ça s'applique justement un peu difficilement, ou en tout cas, ça soulève la question encore de la responsabilité. Si le dommage est causé parce que la personne se fiait à son, par exemple, son régulateur de vitesse automatisé, puis que celui-ci a fait défaut puis a créé une collision, est-ce que l'assureur qui va devoir dédommager pour ça, ne pourrait-il pas se retourner et poursuivre, par exemple, le fabricant d'auto ou la compagnie responsable de ces pièces-là?
Mais ça,
présentement, dans notre système, ça n'existe pas parce que les compagnies ont une entente qui permet de gérer les cas d'indemnisation parce que ça repose sur la responsabilité civile des personnes. Mais dans la mesure où il y a maintenant d'autres joueurs qui pourraient porter une partie de la responsabilité, est-ce qu'on ouvre la porte? Puis si oui, comment on intègre ça? C'est ce genre de questions-là qu'on commence à discuter.
Puis si on ouvre la porte, j'imagine qu'il faut prévoir beaucoup de scénarios, parce que là, on a parlé d'un scénario possible, mais là, si on prend, il y a à peu près autant d'accidents qu'il y a de raisons d'avoir un accident. Si on regarde tout ça, il va falloir se faire littéralement un chemin ou un code qui va prévoir à peu près tout ce qui peut humainement arriver sur la route, là.
C'est fort probablement le cas. Puis d'ailleurs, la convention d'indemnisation qu'on utilise déjà au Québec présentement, elle fait un peu ça. Elle essaie d'imaginer tous les scénarios possibles de collision puis comment on répartit la responsabilité. Bien, maintenant, comment on traduirait ça dans un monde où il y a comme une coexistence en même temps là, de véhicules traditionnels non assistés où c'est la personne en chair et en os qui conduit son véhicule? Et il y a des véhicules qui ont sur la route des degrés variables là, d'aide à la conduite.
Et là, à partir de là, Patrick Derry, comment on va procéder là? Mettons, on s'est entendu, on a fait une charte, on a établi un certain nombre de critères. Est-ce qu'on doit par la suite aller rencontrer chaque compagnie d'assurance ou si on va en rencontrer une et tout le monde va s'entendre que, bon, au Canada, ça va être la façon de faire?
OK. Bien, la façon dont on procède à l'autorité dans ce genre de dossier-là, c'est qu'on a rendu public un document de consultation qui pose une trentaine de questions très ouvertes. Vous verrez dans le document qui est disponible d'ailleurs sur notre site Internet, si vos auditeurs veulent le consulter.
On va le glisser avec l'information sur le balado, ça peut être le fun, effectivement.
Parfait, puis on invite tout le monde, hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux 30 questions. Si vous avez des commentaires ou des points de vue, on va être client de toute l'information qu'on peut colliger pendant notre consultation. Ça se déroule jusqu'au 21 janvier prochain.
OK.
Une fois qu'on aura reçu les réponses, puis dans la consultation, oui, c'est grand public, personne n'est obligé de participer, mais nous, on va interpeller directement plusieurs parties prenantes qu'on sait qui sont intéressées normalement de participer à ça. Dans le monde de l'assurance, évidemment, il y a des associations de compagnies d'assurance qui vont certainement participer. On connaît un certain nombre de chercheurs du monde académique qui ont des intérêts de recherche dans ces sujets-là, des associations de consommateurs, des associations automobiles, et on a plusieurs partenaires du gouvernement du Québec aussi qui sont associés à nous dans cette démarche-là. Nous, on prend le bâton de pèlerin, je vous dirais, on va de l'avant avec le document de consultation, mais c'est certain qu'après ça, on s'attache avec la Société d'assurance automobile, la Commission d'accès à l'information, etc., pour être sûr qu'à la fin, lorsqu'on aura reçu au terme de la consultation les points de vue de un peu tout le monde qui auront répondu, on va essayer de digérer ça, d'organiser ça un peu. Mm-hmm. Notre intention, c'est de créer une table de concertation avec nos partenaires gouvernementaux puis de dessiner ensemble c'est quoi les plans d'action qui devraient être mis de l'avant pour favoriser encore une fois l'intégration des véhicules automatisés et connectés au Québec.
Ça fait beaucoup d'intervenants. J'imagine que vous parlez aux assureurs d'une part et peut-être aux constructeurs de l'autre. Il y a plusieurs mois, on parlait de la possibilité que Tesla, par exemple, lance sa propre police d'assurance pour ses véhicules pour justement mieux faciliter l'intégration des technologies de conduite avancée et même autonome, là, son autopilot. Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez? Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, on va acheter une voiture et ça va venir avec sa propre police d'assurance?
On en parle dans notre document de consultation. On le voit venir comme un des scénarios. Puis c'est justement un bel exemple, ça, de... Vous savez, l'image de rentrer un rond dans un carré, là?
Oui!
Un modèle comme ça, là. Mm-hmm. Un modèle comme ça que la voiture vient avec son assurance, là. Présentement, notre système d'assurance au Québec n'a pas été prévu pour intégrer ça.
Non, exact.
Donc, on pose ce genre de questions-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
J'entends des compagnies d'assurance doivent graisser des dents.
Ben, c'est clair. Ben oui. Puis ça fait partie de cette mentalité. Et Tesla est né de cette mentalité, de cette culture de la Silicon Valley où on n'a pas peur de brasser la cage d'industrie établie. Puis ça fait partie d'une... Ça va être un point de friction qui va arriver plus tôt que tard, donc c'est bien de le considérer. Moi, il y a un truc que j'aimerais savoir. Est-ce qu'un jour, là, le fameux constat amiable quand on a une collision, est-ce que ça peut se numériser? Est-ce qu'on peut faire ça de nos jours autrement qu'avec un papier puis un crayon?
Ah, écoutez, là, vous me posez une colle parce que c'est vraiment pas l'autorité qu'on a ce boule-là.
On va demander ça à la CERC un jour, mais ça serait le fun de le savoir en tabarnouche.
Ben oui, ben écoutez, je vais poser la question à nos partenaires. Je pense au niveau du groupement des assureurs automobiles que j'aurai de l'information là-dessus.
Parce que ça touche...
L'idée, c'est d'avoir une solution conviviale. Si les gens on trouve que c'est plus facile à remplir sur un téléphone.
Ben même plus loin que ça, les voitures sont connectées, puis vous penchez là-dessus. Il y a beaucoup de données que nos véhicules possèdent sur nous, surtout quand on se déplace avec des véhicules qui ont une connexion Internet. Il me semble qu'il devrait y avoir un moyen à la limite d'automatiser ça, mais il y a aussi cette question-là, là,
puis
les données qu'on échange.
Ça m'amenait à la prochaine question, puis je voulais en parler avant de terminer l'entrevue. Alain le disait, nos voitures transportent beaucoup d'informations qui concernent les propriétaires, les usagers, puis il va y avoir des enjeux sur la protection des renseignements personnels.
Pour leur propriété aussi, à qui appartiennent ces données-là.
Voilà. Mm-hmm. Comment vous comptez vous attaquer à ce problème-là, M. Derry?
Ben, écoutez, c'est des questions qu'on pose textuellement dans notre document à l'égard des données, par exemple. Il y a des enjeux de protection des renseignements personnels, de respect de la vie privée, c'est évident, on les souligne. Mais il y a aussi des enjeux de cybersécurité, parce que connecté, ça va dans les deux sens.
C'est vrai. On en a vu aussi. Mm-hmm.
Les pirates sont généralement toujours en avance sur ceux qui développent. Hein. C'est la loi de la moyenne. Généralement, on trouve des astuces pour déjouer le système avant que le système se renouvelle. Ouais.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a notre partenaire, la Commission d'accès à l'information, qui a participé à la rédaction des questions qu'on pose avec nous là, pour toucher ces enjeux-là. Puis, il y a aussi, encore une fois, en cas de cyberattaque, la question de la responsabilité. Qui est responsable? C'est probablement pas le conducteur. Là. Donc, comment qu'on fait pour s'assurer que la personne qui est imputable de ce qui arrive soit responsable? Qu'il y a des dommages à payer.
J'imagine que le projet de loi 64 doit aussi s'appliquer au contexte automobile, là, l'espèce de projet sur la protection des données numériques.
Oui, ben en fait, il y a toutes les entreprises qui agissent au Québec.
Exact.
OK. Wow. Okay. Ben, en tout cas, vous avez soulevé beaucoup de questions intéressantes. J'espère qu'on va être capable de jeter la lumière là-dessus. On va aller vérifier le document que vous avez fait, puis on va le mettre en ligne avec l'information sur le balado. Merci de votre temps, M. Derry, c'était très gentil. Ça nous a appris beaucoup de choses et ça nous a appris aussi que il y a un grand défi qui s'en vient, qu'il va falloir relever. Je pense que c'est de façon collective qu'on doit le faire. Je vous rappelle qu'on est avec Patrick Derry, qui est surintendant de l'encadrement de la solvabilité à l'Autorité des marchés financiers. Merci à nouveau, M. Derry.
Merci, bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. Alors nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers tout de suite après.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Troisième bloc de l'émission, ce sont nos essais routiers. Mais avant, je voulais vous faire petite auto-promo pour écouter le balado « Ça tient la route ». Évidemment, on peut aller sur le site du 98.5 FM, dans la section « Balado ». Vous allez voir « Ça tient la route », on est là chaque semaine. On va aussi sur Google, Spotify, Apple, les plateformes bien connues. On est là aussi sur annuelauto.ca. Chaque semaine, on fait une mise à jour, donc l'émission est là aussi. Donc, vous pouvez aller voir et écouter le balado. Notre sujet écolo-auto cette semaine, on le sait, on a un sujet chaque semaine. Cette semaine, intéressant parce qu'une étude qui est en train de se faire par les gens d'écolo-auto sur le coût de posséder un véhicule à essence versus un véhicule électrique.
Ah oui?
Parce que ça, ces paramètres-là changent à peu près à chaque année.
À chaque fois que le prix de l'essence fluctue.
Voilà. Le prix de l'essence monte, le prix des véhicules électriques descend, puis là, à un moment donné, ça devient de plus en plus intéressant. Puis là, l'étude est en train de se faire au moment où on se parle et on a pris 3 points de comparaison, 15 000, 20 000 ou 25 000 km par année. Et on a sorti déjà des données préliminaires pour 13 modèles, des noms connus, la Bolt, la Tucson, version hybride, RAV4 Prime, RAV4 hybride, Tesla Model 3. On regarde uniquement les coûts de consommation, les coûts d'achat ainsi que les rabais. Parce que des rabais, évidemment, provinciaux et fédéraux, ça fait une grosse différence. On n'a pas encore de données précises, mais on voit quand même des tendances se dessiner. Des véhicules, par exemple, hybrides, sont de moins en moins intéressants à l'achat. Parce que les différences de consommation entre le moteur essence et le moteur hybride ne sont souvent pas significatives. Par exemple, une Corolla hybride, une Elantra hybride est toujours plus dispendieuse sur 5 ans qu'un Corolla ou un Elantra essence. Donc, on n'arrive pas, avec l'économie qu'on fait en carburant, à reprendre la prime qu'on a payée à l'achat. Dans la même veine, un Tucson hybride est plus dispendieux à posséder que son équivalent à essence. Là où ça devient intéressant, ces véhicules hybrides branchables, comme un RAV4 Prime, qui lui est plus intéressant sur 5 ans qu'un RAV4 ordinaire ou un RAV4 hybride. Et si on fait 25 000 km par année, la Bolt devient plus abordable qu'une Corolla ou qu'une Elantra sur 5 ans. Donc ça, c'est déjà les premières tendances qu'on a. Ce que je vous invite à faire, c'est aller sur ecoloauto.com. On a tous les détails de cette étude-là pour mon moment. On a même fixé des comparatifs du coût total sur 5 ans de véhicules hybrides, hybrides branchables et électriques. On va regarder ça en détail. Et quand on va avoir demain l'information au niveau du balado, on sera en mesure de mettre le lien et vous pourrez aller voir ça. Donc, ecoloauto.com. Autre sujet, ton essai de la semaine, mon cher Alain, parle-nous un peu du nouveau MDX.
Oui, ben écoute, c'est pas extrêmement apparent, mais Acura vient de renouveler de façon assez importante le MDX, qui est leur plus gros VUS. Jusqu'à ce que le prix de l'essence bondisse de 30 cents le litre là, il y a quelques semaines à peine, ou en tout cas en quelques semaines à peine. Le créneau des gros VUS de luxe était un de ceux au Canada qui connaissait la plus forte popularité. Hein. La croissance de ce créneau est phénoménale et ça explique pourquoi il y a beaucoup de modèles dans ce créneau-là. Pour Acura, qui propose une des valeurs sûres dans ce marché-là, même si le MDX commençait sérieusement à vieillir, il fallait quand même poser un geste que je disais d'entrée de balado, qui est très populaire en politique. Il fallait changer sans trop changer. Il fallait être à la fois progressiste et conservateur,
voilà.
dirait un politologue plus ou moins cynique. Donc, l'édition 2022 du MDX peut être qualifiée de changement dans la continuité. Visuellement, ben, il a l'air un petit peu plus costaud et c'est voulu. Il est plus long, plus large que son prédécesseur, mais il est aussi un peu plus bas. C'est un bon gain. Surtout, il est plus léger, d'un poids de plusieurs kilos, là, ce qui ne nuira pas à son comportement routier ni non plus à sa consommation. Et sous la carrosserie, la suspension a été hautement modernisée et ça paraît. On a un VUS qui colle pas mal plus à la route qu'avant. C'est évidemment pas un BMW X5, on s'entend.
Non, mais on lui a donné quand même quelques notions sportives supplémentaires. Ça n'en fait pas un VUS Sport. Là. On n'est pas dans un Cayenne, on n'est pas dans un X5, on n'est pas non plus dans un GLE. Mais par contre...
On n'est pas dans un Cadillac non plus.
Voilà.
Qui était l'autre point de comparaison. Cadillac XT6, par exemple, qui est à peu près de format comparable.
Ouais.
Évidemment, un Cadillac, c'est un Cadillac. T'sais. Il y a comme cette espèce de notion de confort.
Exact.
Donc, l'Acura se situe à peu près dans le milieu de cette gamme de véhicules-là. Côté performance, notons que le V6 de 3,5 litres qui figure pour l'instant seul au catalogue est un peu décevant, à mon avis. T'sais, dans la mesure où il existe des 4 cylindres, des 6 cylindres turbo dans chez d'autres constructeurs qui sont pas mal plus dynamiques.
Puis tu sais, tu connais le vieil adage, quand t'avances pas, tu recules. Et c'est le problème chez Acura. Ce moteur-là est très bon, mais c'est à 3, près le même moteur qu'il y avait il y a 15 ans. Il faut à un moment donné être de son temps, aller de l'avant, amener quelque chose qui va faire en sorte qu'on va évoluer.
Exactement.
Et à ce chapitre-là, on avait, oui, un bon produit, mais un bon produit il y a 15 ans, puis un bon produit aujourd'hui, on n'est pas à la même place.
C'est plus la même chose. Non,
c'est un problème du côté d'Acura.
Il paraît qu'un 6 cylindres turbo de 3 litres s'en vient. Alors, notre avis est assez simple. Attendez de pouvoir l'essayer avant de comparer et de considérer l'achat de MDX 2022. Il faut dire, par contre, la présence d'une boîte automatique à 10 rapports dans ce modèle-là, les modèles précédents avaient une boîte à 9 rapports, mon Dieu, phrase compliquée. Donc, la nouvelle boîte à 10 rapports est vraiment extrêmement bien calibrée.
Oui.
On a vraiment l'impression qu'on va aller chercher un comportement encore plus fun avec le moteur turbo. Parce que cet étagement-là de la boîte fait qu'on a l'impression que la courbe de turbo va être pas mal intéressante et que ça va aider aussi à la consommation parce que le V6 actuel fait quelque chose comme 14 litres au 100 km, ce qui n'a aucun bon sens, peu importe comment on le regarde. Et en plus, il faut l'alimenter au super. Alors, quand je parlais du prix de l'essence tantôt, le litre de super est au-dessus de 1,75 de litre.
J'ai payé 1,68 avant hier parce que j'ai rempli mon Monce que je t'allais mener lundi.
Ouais.
Alors, 97,14 $,
voilà.
Pour être précis. Et j'ai fait 400 km.
Ce sont des gros dollars. À bord du MDX, ben écoute, c'est la même chose qu'avant, malgré le renouvellement. Écoute, c'est un bel habitacle, confortable. Les sièges en avant sont écœurants, mais...
C'est un excellent véhicule. Rien à redire là-dessus.
On a encore le pavé tactile.
Ah, le donné de pavé tactile, oui, je sais.
Le pavé tactile, puis je comprends pas que
même
les gens...
Même Lexus s'en est débarrassé.
Ça fait
Lexus
des années que tout le monde le dit. Je connais personne qui aime ça.
Moi non plus, je connais personne.
Et le message ne se rend pas, donc...
Non, ça s'est rendu chez Lexus. mais c'est pas encore arrivé chez Honda.
Probablement que leur équipementier est pas encore à court de pièces et c'est ça le problème.
Ouais, ou on a un contrat de 10 ans, il va falloir finir le contrat avant de penser à autre chose.
Ce qui est en fin de compte assez
c'est
dommage.
C'est comme la boîte CVT de Nissan, ça. Jetco doit avoir un contrat de 20 ans avec eux autres.
Fallait vider les conteneurs. Voilà, exact. Cela dit, il y a beaucoup de concurrence dans le créneau des VUS, surtout à ce prix-là, là, entre 55 et 60 000 $ et même un petit peu plus si vous l'équipez. Il y a même des excellents VUS, soit hybrides branchables ou carrément électriques. Alors clairement, le changement dans la continuité, dans ce contexte-là, c'est juste pas suffisant. Donc
non,
MDX qui est comme mais.
Écoute, ça reste un bon véhicule, mais comme tu dis, mais.
Il aurait été bon il y a 10 ans.
Mais on peut faire mieux que ça. Exact. Et surtout, Honda a toujours été reconnu pour être non seulement un excellent motoriste, mais une compagnie qui était capable d'aller de l'avant avec certains
projets. La formule Honda est là. Le package est comme celui d'un bon véhicule Honda. Malheureusement, ce n'est plus suffisant.
Il manque des détails intéressants pour en faire un véhicule plus pertinent.
Exact.
Effectivement. Bon, moi, de mon côté, écoute, j'ai un dinosaure. Littéralement, là, je cherche un mot.
Qui carbure aux os de dinosaures décomposés.
Que, oui, ce véhicule est une incitation à perdre son permis de conduire.
Ah oui.
C'est le F-Pace SVR. Alors, on a mis le bon vieux V8 surcompressé de 5 litres qui fait 550 chevaux. Sous le capot d'un véhicule. En fait, j'appelle même pas ça un VUS intermédiaire. C'est un compact plus. C'est plus petit que la majorité des intermédiaires, mais c'est plus gros que les compacts. On est à peu près là. Par contre, il y a un bon espace derrière. Malgré le format qui est pas si grand, l'espace derrière, on peut embarquer deux adultes. Mm-hmm. Ceux qui ont des sièges de bébé, il n'y a aucune crainte, ça va très bien rentrer.
Le bébé va les cheveux par en arrière, là, à la vitesse où ça va.
Ben là, c'est fermé. Quand même, c'est pas un décapotable, on n'est pas au vent. Mais la version SVR pousse le bouchon assez haut. Là, le prix de départ, on va se le dire tout de suite, là, c'est 96 250 $. Ça, c'est avec rien dedans. J'avais la peinture orange à 6 100 $.
Hey boy.
J'avais l'afficheur tête haute à 1100 $. Les roues de 22 pouces viennent avec. On a un choix de quelques roues qui peut ajouter certains dollars. Mais disons qu'avec les options, j'étais à 110 000 $ en bout de piste. Donc, c'est pas donné.
Le canton juste revenir dans le passé, est-ce que tu viens de dire, la couleur orange coûte 6 000 $ à elle toute seule?
Oui, à cause du nombre de couches, du reflet, là, il y a un paquet d'affaires.
Wow. Donc, les gens qui croisent ça sur la route peuvent dire...
T'as vu une Jaguar assez rare. Il n'y en a pas des tonnes. Bon, évidemment... On est très confortable, c'est-à-dire que c'est une SVR, donc les sièges sont plus moulants, finition en suède et cuir véritable. Donc on a mis, puis on a refait une partie et de l'extérieur et de l'intérieur. On a un nouvel écran qui est plus facile à utiliser, je dois l'admettre, parce que Jaguar faisait partie de cette liste. Et là, le nouvel écran, d'abord, est tactile. Il est beaucoup plus facile à comprendre. Le CarPlay fonctionne instantanément. Tu le branches, il rentre. Alors qu'avant, il fallait certifier, homologuer, passer par 3 menus. Là, ça se fait, boum, en cliquant des doigts, c'est réglé. Alors ça, c'est une grosse amélioration. L'aide au stationnement avant et arrière vient avec reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide à l'angle mort, il y a plusieurs fonctions d'aide à la conduite qui se glissent dans tout ça. Et évidemment, beaucoup, beaucoup de puissance. On n'a pas l'évolution technologique qu'on a dans certains autres modèles concurrents, comme le Cayenne, comme le X5, comme le GLE. Il n'y a pas de suspension pneumatique. C'est une bonne vieille suspension, bien calibrée, cela dit. Sauf que malgré un format qui n'est pas très gros, ça fait 2100 kilos. Alors, c'est lourd.
C'est pesant quand même. Oui.
C'est lourd. On sent le poids, mais la conduite est, je dirais, assez intuitive. C'est-à-dire, on va sentir qu'il glisse un peu, mais ça se maîtrise très bien. Il y a des pneus de 22 pouces, donc il y a de la gomme. Là. Moi, j'avais encore les pneus d'été. On n'est pas passé aux pneus d'hiver encore. Mm-hmm. Donc, c'est du Pirelli P0 22 pouces.
C'est large
pouces.
Aussi.
Ouais, c'est une grosse bottine. Là. Mm-hmm. Donc, ça tient le véhicule au sol. La ligne est magnifique. Ça, là-dessus, Jaguar ont l'art de bien dessiner des véhicules. C'est beau en dedans, c'est beau en dehors. Ça a du chien, ça a du panache. Oui, ça coûte cher. Mais je vous dirais, est-ce que c'est plus désennuyant que la majorité
là,
des VUS?
Un chien avec un panache.
Oui.
Un jaguar. C'est quand même pas rien.
C'est vrai que ça fait beaucoup d'animaux dans la même phrase.
On va ouvrir un zoo. Vous allez voir ça.
Alors, cela dit, j'ai conduit comme un moine en pèlerinage, là. et j'ai fait du 13,2 litres au 100.
Un V8 en même temps.
Ben, c'est un V8. Mm-hmm. Vous allez passer à 15 litres au 100 là, avec pas d'effort. Là, c'est vraiment ça. Et ça m'a coûté, je l'ai dit tantôt, 97,14 $ pour faire le plein pour à peine 400 km parcourus sur l'autoroute. Donc, tenez bien en tête que si vous achetez ce genre de véhicule-là, vous allez être à la pompe souvent. En fait, de fiabilité, bon, les produits Jaguar ne sont pas un exemple de fiabilité dans ce bon
nombre. C'est
très vrai. Est-ce que ce véhicule-là est pire que les autres? Pff, il est à peu près dans la moyenne. Mais je vous dirais que la fiabilité n'est pas le propre non plus des véhicules allemands. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous allez faire pire qu'un véhicule allemand? Vous n'allez pas faire mieux, vous n'allez pas faire pire. Vous allez faire à peu près la même chose. Moi, je dis toujours aux gens, dans des véhicules comme ça, le mieux à faire, c'est d'avoir une compagnie, de le louer, de remettre les clés au bout de 3 ans, puis de passer à autre chose. Parce qu'autrement, si vous commencez après ça, hors garantie...
Donc, décadent et un peu fragile.
Oui, c'est vrai. Mm-hmm. C'est pas une mauvaise définition. On a énormément de plaisir. Cela dit, je n'ai eu que du plaisir. Par contre, les pneus de 22 pouces sur la suspension, et ça cogne un peu. Si la route se dégrade, là, vous le sentez dans le bas du dos constamment, donc ça cogne un peu. Cela dit, c'est peut-être le prix à payer pour ce genre de performance-là qu'on a avec le véhicule. Les gens qui aiment le style peuvent aller dans un modèle de base avec le 4 cylindres, puis vous allez avoir ça à 60 000 $ là. On est quand même à 50 000
$
d'ailleurs
moins. Les F-Pace. C'est pas...
On en voit. Mm-hmm. En fait, les F-Pace avaient commencé leur carrière avec l'équipe Sky au Tour de France de 2017.
Ah,
c'est
oui.
là qu'on avait introduit le véhicule. Et c'était le premier VUS intermédiaire du côté de chez Jaguar.
Mm-hmm.
On était un peu en retard dans la parade, mais on avait amené un véhicule intéressant dans la mesure où il était joli. Il y avait un format qui était plaisant pour les gens qui l'avaient. Et donc, on a eu un véhicule, somme toute, qui a fait du bon travail. Cela dit, je pense que ce moteur-là est en fin de carrière parce que c'est un moteur, et là, je ne pourrais m'avancer. Mais je ne sais même pas si ce moteur-là va rencontrer les prochaines normes euro puis les prochaines normes au niveau de l'Amérique du Nord, parce que ça s'est promené chez Jaguar, ça a été chez Land Rover, ça s'est promené un peu partout.
Mm-hmm.
Donc, c'est un moteur qui date. Mais on a été capable de l'éprouver au fil des ans. Donc, on a un moteur qu'on connaît bien, j'ose pas dire
qu'il est
fiable,
ouais, c'est ça.
Mais qu'on a été capable de bien apprivoiser. Et la performance est là. Bon, je dirais qu'il y a un petit retard au niveau de la puissance quand vous appuyez sur l'accélérateur et le moment où la puissance arrive. Il faut s'habituer un peu à ça. Ce qui fait que même quand on le met en mode sport ou super sport, des fois, il y a un petit peu des relents. Ça prend un petit temps. Là. Il y a un décalage, mais cela dit, bon, faites-vous-en pas quand ça embarque. Il n'y a pas de danger. Le son et la performance est là.
Mais c'est pas un Cayenne.
Mais c'est pas un Cayenne, c'est pas la même chose. Est-ce que j'aurais un Cayenne avant? Ça dépend du modèle. C'est pas moins cher. On dit à 110 000, mais vous regardez ce qui se compare et que ce soit un AMG, un M, ou du côté de Porsche, les modèles turbo, on est dans ces prix-là et plus. Alors, on n'est pas pire que les autres.
Non, exact.
On arrive avec une offre qui est différente, puis que certains gens vont aimer. Alors, nous, ça fait le tour. Mm-hmm. On vous dit salut tout le monde. La semaine prochaine, j'ai un Santa Cruz cette semaine et j'ai aussi un Silverado diesel avec le 3 litres.
Oh.
On va peut-être parler un peu de ça. Et on va avoir d'autres invités. Merci à Jean-Christophe Ouellette pour la réalisation. Mm-hmm. Alain Mécana, Benoît Charrette qui vous disent à la semaine prochaine.
Salut.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.